Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une des blocages menés par des routiers pour réclamer des augmentations de salaire. Cela ressemble à un coup de semonce avant la rentrée. On rejoindra Guillaume Dominguez sur un point de blocage en Seine-et-Marne. Avec Carole Ferry, on verra ce que prévoit le gouvernement pour son projet de loi pouvoir d'achat, augmentation des prestations sociales et plafonnement de l'augmentation des loyers. Les dernières heures ce matin du procès des islamistes et de leurs complices des attentats du 13 novembre, avec les derniers mots de Salah Abdeslam, Gladys Laffitte suit ce procès pour Europe 1. On ira également en Allemagne pour le sommet du G7. Les pays les plus riches de la planète veulent accroître la pression économique sur la Russie. Pouvoir d'achat, économie d'énergie, on en parle avec vous au 39-21 et avec Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines. Bonjour, bonjour. Benjamin Lucas. Et avec Jean-Noël Barrot, député Renaissance des Yvelines. Bonjour.
Modem. Et secrétaire général.
Bien sûr. Bonjour, merci d'être avec nous également et on se retrouve dans un instant. Des barrages filtrants à l'entrée de plusieurs zones industrielles du pays. C'est de cette façon que les syndicats de transporteurs routiers ont décidé de montrer leur colère face à leur salaire jugé insuffisant malgré deux revalorisations successives depuis le début de l'année. Depuis 3 heures, ce matin, des actions sont menées dans le Nord, les Bouches-du-Rhône, en Meurthe-et-Moselle ou encore en Seine-et-Marne où l'on vous retrouve, Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous êtes à Moissy-Cramayel, dans la zone industrielle du parc de Chanteloup, où il reste encore des camions, hein ?
Oui, ici, il faut dire que la mobilisation commence un petit peu à s'essouffler. Il y reste une trentaine de manifestants qui ont commencé à faire cuire quelques saucisses le long des camions à l'arrêt. Le gros du blocage a eu lieu un petit peu après 8 heures ce matin. Les manifestants ont bloqué l'entrée et la sortie du parc de Chanteloup pour les poids lourds. Tous dénoncent ici des salaires qui ne leur permettent plus de vivre correctement. Arnaud est convoyeur de fonds depuis 20 ans. Son secteur est lui aussi soumis aux conventions des transporteurs. Il gagne 1 600 euros par mois et pour la première fois, il n'arrive pas à joindre les deux bouts.
J'ai fait un plein d'essence, tout simplement, 130 euros. On repart 6 mois, voire un an en arrière, j'étais à 80 euros. Donc vous comptez une supplément de 50 euros par plein, vous comptabilisez 3 à 4 pleins mensuels, vous avez un budget de 200 euros supplémentaires imprévus dans votre budget et qui aujourd'hui impacte tous les foyers. Maintenant, des paniers alimentaires, bah, c'est la même chose. Vous allez faire 150 euros de course, vous avez l'impression que vous n'avez rien dans votre frigo.
Voilà, et pour vivre correctement, Arnaud estime qu'il lui manque 500 euros par mois. Le constat est le même pour Jean-Claude, lui est chauffeur routier depuis 35 ans. Et pour lui, ce sont aussi les conditions de travail qu'il faut revoir.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est quand même des smicards de la route. On n'est même pas à 11 euros de l'heure. Nous, ce qu'on demande, c'est des nouvelles négociations et qu'on prenne un petit peu plus en compte aussi tout ce qui est pénibilité. Parce que dans notre métier, on ne voit pas grandir nos gosses. On est sur la route 10 heures, voire 11 heures par jour. Voilà, on voudrait que ça avance un petit peu. On voudrait que le patronat ouvre enfin les yeux sur tout ça.
Alors ici, le blocage devrait durer encore jusqu'à 14 heures. Mais les syndicats annoncent déjà vouloir mettre en place d'autres mouvements de grève s'ils ne sont pas entendus aujourd'hui.
Merci beaucoup Guillaume Dominguez en direct de Moissy-Cramayel. Et les syndicats menacent d'organiser une grève nationale encore plus importante en septembre, donc si le patronat et le gouvernement ne répondent pas favorablement à leurs demandes. C'est le premier texte majeur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, celui qui porte sur le pouvoir d'achat des Français fortement impacté par l'inflation. Il devrait être présenté en Conseil des ministres le 6 juillet prochain, mais quelques mesures qui seront proposées ont déjà fuité, relayées notamment par les Échos. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
On a des précisions sur les projets du gouvernement qui veut revaloriser les prestations sociales et plafonner l'augmentation des loyers.
Oui, alors sur la revalorisation des minima sociaux par exemple, elle est confirmée et les Échos précisent le montant 4%, 4% de plus pour les retraites, mais aussi les allocations familiales, le RSA, les allocations de Pôle emploi ou bien encore la prime d'activité. Concernant le SMIC, le gouvernement veut se donner plus de pouvoir pour contraindre les branches qui conservent des grilles de salaire sous le minimum légal à les revaloriser. Par contre, plus de chèque alimentaire à ce stade. La mise en place serait trop complexe. À la place, un chèque inflation de 100-150 euros pourrait être versé aux plus modestes. Selon l'AFP, la prime transport pour les salariés sera également revalorisée pour les déplacements domicile-travail. Et puis le texte prévoit effectivement un bouclier logement. Alors il n'y aura pas de gel des loyers, mais la hausse sera tout de même plafonnée à 3,5% pendant un an. Pour les locataires les plus fragiles, les APL devraient augmenter également de 3,5% cet été.
Voilà, un nouveau coup de pouce donc pour le porte-monnaie des Français qui devrait coûter jusqu'à 8 milliards d'euros pour les finances publiques. Pourtant, Carole, ce matin, le ministre de l'économie s'est montré alarmiste. Il estime qu'on a atteint la cote d'alerte en matière de dépenses.
Et oui, alors que l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition sur ce texte pouvoir d'achat, Bruno Le Maire met en garde sur les limites de la dépense publique. Les conditions de financement ont changé, explique-t-il, au moment du quoi qu'il en coûte. La France empruntait à des taux négatifs, voire nuls. Aujourd'hui, on emprunte à 2%, il devient donc beaucoup plus coûteux de s'endetter. Bruno Le Maire qui demande par ailleurs un effort supplémentaire à Total Énergie pour participer à l'effort collectif. Le ministre de l'économie demande aux géants pétroliers de poursuivre sa baisse de 10 centimes sur les carburants en milieu rural.
Merci beaucoup Carole. L'actualité judiciaire. On entre dans les trois derniers jours du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Le verdict est attendu pour mercredi soir après 9 mois d'audience. Et ce matin était un moment clé pour les 14 accusés présents dans le box. Gladys Laffitte avec nous. Bonjour Gladys.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les accusés ont pu, chacun leur tour, s'exprimer une dernière fois à la barre.
Oui, et c'est Salah Abdeslam qui s'est exprimé en dernier, longuement, le ton solennel. Il dit regretter ces paroles qu'il qualifie de dures au début du procès en septembre, qu'il explique par un choc social après 6 ans d'isolement. Et il le répète, ses excuses aux victimes sont sincères. Et puis l'accusé qui risque la prison à perpétuité incompressible prévient la cour. J'ai reconnu que je n'étais pas parfait, mais je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Des mots perçus comme sincères par Philippe Duperron. Il a perdu son fils au Bataclan et préside l'association de victimes 13-11-15 Fraternité et Vérité.
Je pense malgré tout qu'il a lui aussi sincèrement exprimé l'évolution qu'on a bien tous constatée au cours de ce procès. Tout cela, évidemment, n'est pas à confondre ni avec les réquisitions, ni avec la décision qui sera rendue. Et il y avait de la sincérité, de l'émotion pour tous.
Voilà, d'autres accusés se sont exprimés. Certains étaient essoufflés, émus, disant leur peur du verdict, leur innocence, mais surtout leurs excuses aux victimes, comme Mohamed Abrini, qui est plus connu sous le nom de l'homme au chapeau. Je n'ai pas attendu le procès pour avoir des remords. Quelque part, j'aurais pu arrêter tout ça. Voilà, leur sort est désormais entre les mains de la cour et des magistrats professionnels qui se sont retirés pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi soir.
Gladys Laffitte, merci Gladys. Cette information à un adolescent de 15 ans a été tué par balle à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ça s'est passé hier soir dans un quartier qu'on qualifie de populaire de la ville, le quartier des Griffeuils. Là-bas, le trafic de stupéfiants est une réalité bien connue. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Pour le moment, on n'est pas certain que la victime soit elle-même impliquée dans une affaire de drogue.
Oui, parce que cet adolescent de 15 ans n'était pas connu des services de police. Il pourrait s'agir, avance prudemment une source policière, d'une victime collatérale d'un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants dans le quartier de Griffeuil à Arles, là où les policiers sont déjà intervenus il y a une semaine pour des coups de feu. Et ils sont revenus hier soir dans ce même quartier après cette nouvelle fusillade. Vers 22h, 4 adolescents qui étaient en train de marcher dans la rue ont été visés par des tirs d'armes à feu, des tirs qui provenaient d'une voiture en mouvement avec plusieurs personnes à bord et qui s'est approché de ce groupe pour le viser délibérément. Ce jeune de 15 ans est le seul à avoir été touché par les tirs. Il a été transporté à l'hôpital, mais il n'a pas survécu à ses blessures. La voiture des auteurs a été retrouvée incendiée à Saint-Martin-de-Croix, située à une vingtaine de kilomètres de la scène de crime. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Marseille. Depuis le début de l'année, 16 personnes sont mortes par balle sur fond de trafic de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône, principalement à Marseille, mais d'autres villes sont aussi touchées, comme Arles, donc Aix-en-Provence ou encore Avignon.
William Molinier, merci beaucoup William. Il est midi 9, restez bien avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Dans un instant, on va aller en Allemagne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est adressé au chef d'État du G7. On va y rejoindre Arthur Delaborde. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
La séquence internationale se poursuit pour Emmanuel Macron qui est au sommet du G7 en Allemagne jusqu'à demain. Les dirigeants des plus grandes puissances mondiales ont discuté de nouvelles sanctions contre l'économie russe. Joe Biden et Boris Johnson ont déjà promis un embargo sur l'or russe. Arthur Delaborde est avec nous. Arthur, c'est une façon de faire bloc derrière l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky qui s'est d'ailleurs adressé en milieu de matinée au chef d'État du G7. Hein.
Oui, il les a d'abord alertés sur la dégradation de la situation sur le terrain au lendemain de nouveaux bombardements sur Kiev, citant des chiffres alarmants jusqu'à présent. Selon lui, 15 missiles russes étaient tirés en moyenne par jour en Ukraine et c'est monté à 62 pour la seule journée d'hier. Au total, selon le président ukrainien, ce sont 3800 missiles russes qui ont été tirés depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky a donc appelé les dirigeants du G7 à intensifier l'aide en matière de défense et à augmenter les livraisons d'armes. Il s'est aussi inquiété des conséquences du conflit en matière de sécurité alimentaire, soulignant le besoin de débloquer au plus vite les exportations agricoles du pays. Selon l'ONU, 22 millions de tonnes de céréales sont actuellement dans les silos en Ukraine. Or, il y a un besoin urgent de faire de la place pour les prochaines récoltes, autrement dit de sortir les grains et trouver des capacités de stockage. Le président ukrainien a aussi renouvelé son appel à intensifier les sanctions contre la Russie. Et en conclusion, un peu plus de 4 mois après le début du conflit, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il fallait absolument tout faire pour que la guerre soit achevée d'ici la fin de l'année. Il redoute en effet un hiver particulièrement rude durant lequel les positions seront figées, ce qui risque de rendre les combats encore plus difficiles.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1, donc en Allemagne, au château d'Elmau, en Bavière, donc pour suivre ce sommet du G7. La présidente de la Commission européenne se projette d'ailleurs déjà au mois de novembre et au prochain sommet du G20. Ursula von der Leyen se dit favorable à une participation des dirigeants occidentaux et ce, même en cas de présence de Vladimir Poutine. Le procès de Jean-Marc Reiser va s'ouvrir cet après-midi devant les assises du Bas-Rhin, ce sexagénaire qui est accusé d'avoir assassiné Sophie Le Tan, une jeune étudiante dont le corps avait été découvert démembré dans une forêt. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Bonjour Mélina.
Merci. Bonjour Romain.
Rappelons d'abord les faits. Tout a commencé par la disparition de Sophie Le Tan en septembre 2018, le jour de ses 20 ans.
Oui, ce jour-là, l'étudiante part visiter un appartement tout près de Strasbourg et se volatilise. En quelques jours, l'unique suspect est arrêté et mis en examen. C'est Jean-Marc Reiser, celui qui a passé l'annonce pour l'appartement. Il a déjà un lourd passé judiciaire, 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle, des cambriolages. Il a également été acquitté en 2001 pour le meurtre d'une autre jeune fille dont le corps n'a jamais été retrouvé. Même après la découverte du cadavre de Sophie Le Tan, plus d'un an après sa disparition, Jean-Marc Reiser continue de nier toute implication, mais face à des preuves accablantes, notamment du sang de la jeune fille retrouvée chez lui, il finit par avouer le meurtre. En revanche, il nie toute préméditation et cette question sera au cœur du procès. Laurent Trindvonmang, le cousin de Sophie Le Tan, n'attend rien de Jean-Marc Reiser.
C'est quelqu'un qui a toujours menti depuis le début, mais nous espérons avoir en tout cas beaucoup de réponses sur ce qui s'est passé. S'il a été violent, pourquoi ne s'était-il pas arrêté avant et aller jusqu'à donner la mort à Sophie? Et encore, pourquoi se transformer en boucher jusqu'à la découper et l'abandonner dans une forêt comme un vulgaire animal?
Le procès va durer 7 jours jusqu'au mardi 5 juillet. Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Mélina Fachin en direct de Strasbourg. Merci Mélina. Du tennis à présent avec la 135e édition du mythique tournoi de Wimbledon qui s'ouvre aujourd'hui en Angleterre. Un tournoi sans joueurs ni joueuses russes ni biélorusses d'ailleurs. Conséquence de la guerre en Ukraine, décision contestée par les plus hautes instances du tennis qui, en guise de protestation, ont décidé de ne pas attribuer de points au classement mondial à l'issue du tournoi. On craignait alors que les plus gros noms du tennis boudent la compétition. Il n'en est rien, Colin Abgral. Hein.
Oui, après l'imbroglio entre Wimbledon, l'ATP et la WTA, le doute planait quant à la venue des plus grands joueurs et quant à l'intérêt qu'aurait ce tournoi sans eux et sans le numéro 1 mondial, le russe Daniil Medvedev. Mais selon Patrice Agelauer, ancien directeur technique national, les joueurs ne viennent pas seulement pour grimper au classement.
Wimbledon, c'est vraiment un tournoi à part. Même l'argent, même les points, tout ça a moins d'importance. Il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de la tradition. Je crois que c'est le tournoi le plus prestigieux qui existe. Et les points n'ont vraiment que peu d'intérêt pour les joueurs.
Pour preuve, les stars sont bien au rendez-vous. Raphaël Nadal tentera de soulever un troisième trophée du Grand Chelem cette année face à Novak Djokovic, triple tenant du titre. Chez les femmes, il faudra scruter l'américaine Serena Williams, 40 ans, 23 titres en Grand Chelem. Elle effectue son grand retour sur le gazon londonien après un an sans avoir joué. Et puis du côté des Français, ils seront 18, 10 hommes et 8 femmes pour faire mieux qu'à Roland-Garros où aucun d'entre eux n'avait atteint la deuxième semaine.
Colin Abgral et les Français Adrian Manarino et Hugo Humbert sont sur le court depuis quelques minutes pour leur premier match. Dès 14h30, heure française, entrée en lice du Serbe Novak Djokovic face au Coréen Kwon. La météo à présent avec vous Anissa Haddadi avec de nouveaux orages.
Oui, les pluies de ce matin deviennent orageuses effectivement dans le nord-est sur des départements qui ont déjà été fortement touchés hier et la nuit dernière. C'est donc entre les Alpes du Nord et l'Alsace en passant par la Franche-Comté et la Bourgogne que nous allons avoir des orages localement assez violents. Le tonnerre gronde également cet après-midi entre la Lozère et l'Hérault. Partout ailleurs, mais le temps est beaucoup plus calme avec sur le grand quart nord-ouest et le pourtour méditerranéen des éclaircies qui alternent avec quelques passages nuageux au bord de la Méditerranée, on a du vent. Hein. Mistral et Tramontane cet après-midi se lèvent. Les températures, il fait chaud dans le sud. 34 pour Ajaccio et Marseille, 32 à Nîmes, 31 à Montpellier et Bastia, 29 à Nice, 25 pour Grenoble. Ailleurs, il fait plus frais grâce aux orages. 23 à Paris et Lyon, 21 à Nancy, 19 à Clermont-Ferrand et 18 pour Brest.
Merci Anissa. Midi 19, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on parle pouvoir d'achat, on parle effort pour réduire notre consommation d'énergie avec vous. Vous appelez le 39 21, vous passez à l'antenne. Et on est également avec Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines, et Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Le gouvernement prévoit d'augmenter de 4% à partir du 1er juillet certaines prestations sociales comme le RSA, l'allocation adulte handicapé, l'allocation personnes âgées ou encore les retraites. Il y a également en projet le plafonnement des loyers de 3,5% sur un an. Qu'en pensez-vous ? Vous appelez le 3921 et vous nous le dites. On est également avec Benjamin Lucas, député NUPES des Yvelines et Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Cette question, je vous la pose à tous les deux. Est-ce que c'est la bonne méthode pour faire face au pouvoir d'achat ? Benjamin Lucas, tout d'abord.
Quelques gouttelettes d'eau alors qu'il faudrait un océan social tant le pays est en tension et tant nous risquons l'effondrement social. Après 5 ans, à priver les Français de pouvoir d'achat, à rogner sur un certain nombre de dispositifs, et notamment sur les APL, le gouvernement propose de laisser tomber, de laisser s'échapper quelques miettes qui ne résoudront pas la crise sociale profonde dans laquelle nous sommes. Il y aurait des mesures bien plus fortes et bien plus massives à prendre maintenant, parce que nous risquons vraiment l'explosion sociale aujourd'hui dans le pays. Donc, si la situation n'était pas aussi grave, je dirais que c'est une farce, ces propositions qui nous arrivent aujourd'hui. Mais comme la situation est grave, je crois que c'est assez inquiétant.
Mais augmenter de 4% ces prestations sociales, on est dans la roue de l'inflation, hein, l'inflation qui est autour de 5%.
Non, mais on a du pouvoir d'achat qui a reculé. Et en l'occurrence, je prends l'exemple du logement, en gain net à la fin, ça ne couvrira pas l'augmentation réelle des loyers. Donc on voit bien là qu'on est dans un effet de communication. Nous croyons qu'il faut garantir que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Il faut une garantie d'autonomie pour les jeunes à 1063 euros par mois. Il faut augmenter tout de suite le SMIC. Et puis, mesure de pouvoir d'achat, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais sur les carburants, parce qu'aujourd'hui, là, vous avez des centaines de familles, des milliers de familles à travers le pays qui ne pourront pas partir en vacances cet été alors qu'elles le pouvaient l'an dernier.
Jean-Noël Barrot, député MoDem, donc dans la majorité.
Oui, d'abord rappeler que, contrairement à ce qui vient d'être dit par Benjamin Lequin, entre 2017 et 2022, le niveau de vie, c'est-à-dire le revenu à la fin du mois, a progressé 2 fois plus vite que sous le quinquennat de François Hollande, qu'ont soutenu les amis de M. Lucas. Ensuite, face à la hausse des prix, depuis un an, parce que la hausse des prix, ça ne date pas du printemps, ça date de l'été dernier. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Le chèque énergie, l'indemnité inflation, la ristourne carburant, le rehaussement du barème des frais kilométriques, le blocage des prix du gaz et de l'électricité. Et que maintenant, nous voulons aller plus loin en ciblant les aides sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est la question des retraites qui méritait évidemment d'être revalorisée, celle des allocations que vous avez citées. Et puis ceux qui, face à la hausse des loyers, pourraient rencontrer rencontrer un vrai problème pour boucler leur fin de mois et ceux qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler. Donc évidemment que ce train de mesure est le bienvenu et j'espère vivement que les groupes qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale dans l'opposition sauront être constructifs et responsables pour le discuter, certes, mais aussi à la fin de ces discussions, l'adopter.
Comment se fait-il que les Français ne semblent pas s'en apercevoir de ce dont vous nous parlez ? C'est-à-dire que vous dites que le pouvoir d'achat a augmenté entre 2017 et 2021.
Parce que les prix se sont fortement accélérés. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est de baisser les cotisations, de baisser les impôts pour que le salaire net à la fin du mois soit plus élevé. Mais avec la hausse des prix, notamment des prix de l'énergie, avec la hausse des loyers, eh bien la hausse des prix a progressé, si on peut dire, plus vite. Et c'est la raison pour laquelle des mesures très fortes ont été prises depuis le mois d'octobre dernier. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer aujourd'hui puisqu'on voit que l'inflation s'emballe.
On est avec Étienne qui nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 30 ans, vous êtes conseiller en ligne de banque. Donc vous êtes conseiller bancaire, quoi, hein, en ligne.
Oui, réponds au téléphone aux personnes qui appellent. Oui,
donc l'argent, vous connaissez, hein, les chiffres, vous connaissez.
Ah, puis les fins de mois difficiles des gens aussi.
Et vous connaissez également. Oui. Alors, que doit faire le gouvernement ? Effectivement, tiens, de quoi vous apercevez ? Vous dites les fins de mois difficiles, vous les voyez. Vous avez plus d'appels en ce sens ? On ne va pas citer votre banque, mais bon.
Dans ma fonction, c'est de décharger les conseillers sur les gros appels. Donc, j'ai effectivement les gens qui ont des fins de mois difficiles et donc ça peut être vraiment compliqué pour eux, oui. Effectivement.
Et vous notez plus d'appels de gens qui ont des fins de mois difficiles ces derniers mois ?
Oui. La situation génère plus d'appels, oui, effectivement, sur ces sujets-là.
Projet de loi, pouvoir d'achat, que doit faire le gouvernement ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous dites, j'ai peur que ces projets soient trop court-termistes.
Oui, parce que j'entends ce que dit chaque interlocuteur et il y a effectivement des lois d'urgence à faire, mais j'entends aussi beaucoup de promesses avec des chèques blancs, des chèques en bois. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des finances publiques qui sont à sec et qu'il y a des choix stratégiques, notamment sur le nucléaire ou notamment sur la stratégie alimentaire en Europe qui nous mène aussi là où on est. Et les dépenses qu'on utilise aujourd'hui, c'est du pouvoir d'achat aussi en moins pour les générations futures. Donc ce qu'il faut, c'est à la fois, à mes yeux, avoir une vraie réforme de l'État et vraiment réformer nos finances publiques, parce que là, ce qui est scandaleux, c'est le gaspillage de l'argent public, et puis le réserver à ceux qui en ont vraiment besoin, et avoir vraiment une vraie stratégie sur ceux qui travaillent. Je pense quelques petits points. Les RTT où on peut réformer la retraite par capitalisation, la participation, ou une idée de Jean-Christophe Fromentin qui a été livré d'épargne en région pour avoir vraiment
J'ai pas compris ce que vous proposiez.
Transformer les personnes qui ont trop de RTT, les transformer en salaire. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'était l'idée de Fromentin de mettre des livrets d'épargne régionaux, c'est-à-dire de permettre aux Français d'investir et d'épargner, d'utiliser l'épargne, parce que l'État est à sec, sur des vrais projets régionaux d'infrastructures et qui a à la fois des rentrées comme un livret classique et à la fois un retour sur investissement pour les Français qui investissent.
En fait, si je vous suis, c'est travailler plus pour gagner plus. Travailler plus, d'aller retirer des RTT, ça a fonctionné.
Non, c'est pas forcément.
Si on retire des RTT pour du salaire, c'est ça.
Investir et effectivement permettre à ceux qui travaillent, valoriser le travail et permettre à ceux qui travaillent, qui aujourd'hui ont du mal à se déplacer, à utiliser leur voiture, de pouvoir le faire.
D'accord, non, c'est intéressant. Vous-même, vous avez des difficultés de fin de mois ou vous arrivez à gérer ?
Moi, j'y arrive et j'ai la chance d'aller à pied à mon travail, donc j'ai pas ce souci-là. Mais je sais que ça peut être un souci pour un certain nombre de mes collègues qui peuvent aller en agence. Il y a des problématiques de transport à peu près partout.
Évidemment. Et on va parler dans un instant.
Et l'aménagement du territoire est aussi quelque chose de central sur ce sujet.
Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Étienne de nous avoir appelé d'Indre-et-Loire, 30 ans, conseiller bancaire en ligne qui est aux avant-postes, évidemment, pour voir les problèmes de fin de mois des Français, en tout cas des clients de sa banque. Merci à vous Étienne, 3921. Vous appelez comme Étienne et vous passez à l'antenne. Il est midi et demi, on se retrouve dans un instant. C'est le flash, tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, le flash, c'est avec vous Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin. Et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettriez une injustice. Les derniers mots de Salah Abdeslam en clôture du procès des attentats du 13 novembre. Le seul survivant des commandos qui ont fait 130 morts risque la prison à vie. Verdict attendu mercredi. Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants du G7 à faire le maximum pour mettre fin à la guerre avant la fin de l'année. Le président ukrainien les a aussi appelés à intensifier les sanctions contre Moscou. Le G7 qui a déjà la volonté de plafonner le prix du pétrole russe. Tout n'est pas possible. La France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques, prévient Bruno Le Maire. À quelques jours de présenter le projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement propose notamment un plafonnement de l'augmentation des loyers à 3,5% sur un an. Même hausse pour les APL. Bruno Le Maire qui va aussi demander un effort supplémentaire à Total Énergie. L'objectif, que la remise carburant de 10 centimes par litre soit prolongée ou augmentée. Remise qui complète les 18 centimes en moins déjà appliqués par l'État. Un accord de gouvernement est-il possible? C'est à ce casse-tête que va devoir répondre Elisabeth Borne. La première ministre consulte les présidents des groupes parlementaires. Des entretiens qui devraient se poursuivre jusqu'à mercredi. Et puis du tennis avec le premier tour de Wimbledon. Un grand chelem marqué par l'absence des joueurs russes et biélorusses exclus, notamment en raison du contexte international.
Émilie Dez, merci Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Plafonnement de l'augmentation des loyers à 3,5%, augmentation de certaines prestations sociales, augmentation de 4%. Le gouvernement sort à nouveau, j'allais dire, le chéquier, mais en a-t-on encore les moyens? On en parlait à l'instant. Bruno Le Maire souffle le chaud et le froid parce qu'il annonce des mesures, mais il explique aussi qu'en termes de dépenses publiques, la France a atteint la cote d'alerte. Émilie Dez le disait à l'instant dans son flash. Qu'en pensez-vous? Vous appelez le 39-21. On est également avec Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines, et Jean-Noël Barreau, député Modem des Yvelines. Jean-Noël Barreau, on a encore les moyens d'augmenter le RSA et d'autres prestations sociales? Ou c'est la cote d'alerte?
Non, je pense que la cote d'alerte, elle signifie que, même si on pourrait être tenté d'y aller, un certain nombre de mesures générales et non ciblées pour défendre le pouvoir d'achat sont aujourd'hui insoutenable, ou alors, si on les prenait, si on les mettait en œuvre, eh bien, elle conduirait à des sacrifices sur d'autres politiques publiques. Et donc, le paquet pouvoir d'achat qui est présenté ou qui commence à être présenté par le gouvernement, qui va faire l'objet de discussions à l'Assemblée avec tous les groupes pour que chacun puisse faire des propositions d'enrichissement, il est ciblé sur les personnes qui sont, et l'INSEE l'a dit, plus durement touchées par l'inflation que les autres. Il s'agit donc d'être responsable, c'est-à-dire de cibler nos efforts sur ceux qui sont...
Donc rien pour les Français moyens?
Bah bien sûr que si, ça en fait partie, notamment sur ceux qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, pour aller au travail, pour les locataires notamment, qui pourraient être très, très fortement touchés par la hausse des loyers si l'indice des loyers était mécaniquement appliqué. Donc ça
Parce que vous savez ce qu'on dit, ce que disent les Français qui gagnent moyennement leur vie?
Non, qui ont bénéficié de la prime Macron, qui va pouvoir être triplée et qui vont pouvoir bénéficier aussi du forfait mobilité qui va être augmenté. C'est pour tous les Français, mais indépendamment de votre niveau de revenu, vous pouvez être touché plus ou moins durement par l'inflation. Et donc, il faut des mesures ciblées parce qu'effectivement, le contexte dans lequel la France peut solliciter les marchés, c'est un petit peu durci et qu'il faut en tenir compte.
Donc, oui, Benjamin Lucas.
Non, je vais vous parler d'une mesure ciblée, moi, parce que vous invitiez tout à l'heure l'opposition à être constructive. Moi, je crois que c'est vous qui êtes la majorité relative et donc c'est à vous et c'est au gouvernement d'être constructif. Notre République, c'est une République sociale, elle est donc fondée par des principes de justice et d'égalité. De ce point de vue-là, moi, je crois que pour faire œuvre de constructivité, de construction, vous pourriez revenir sur la suppression de l'ISF. Parce que s'il y a une mesure qui a été vécue durement par les Français dans le dernier quinquennat comme profondément injuste, et là vous le dites à raison, on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut cibler, donc comme symbole, mais pas que comme symbole, y compris aussi pour dégager de la marge de manœuvre financière, je vous invite très solennellement à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, à remettre de la justice. Nous sommes un pays riche, il faut maintenant partager la richesse. Parce que
dès
moi,
qu'il s'agit
toujours
d'inventer de nouveaux impôts, la gauche est là.
Je ne l'invente pas, il existait. et il doit à nouveau exister. On est dans une situation de crise sociale majeure. Il faut rétablir de la justice. Il y a aujourd'hui de la richesse à partager. J'entends toujours qu'on dit il faut produire le gâteau avant de le partager. Mais aujourd'hui, regardez un certain nombre de dividendes, regardez les bénéfices et la spéculation faits par exemple par Total, regardez un certain nombre de grandes fortunes qui se sont considérablement enrichies pendant la crise, pendant que l'ensemble
mais
des Français,
y compris
les classes moyennes dont vous parliez tout à l'heure, que se sont appauvries, ben les grandes fortunes se sont elles à nouveau enrichies. Donc le gâteau, il est là, la pâtisserie, elle est là, la devanture dégorge de crème
mais
et
on
de beaux
a déjà,
gâteaux. Il faut maintenant
on
partager.
A essayé, donc, on a essayé d'augmenter les impôts en 2012.
Donc vous ne voulez pas rétablir l'ISF.
Vous avez augmenté les impôts en 2012.
Je vous parle de l'impôt sur les plus riches,
et les emplois, et notamment les emplois industriels, ont été détruits.
Je vous parle des impôts sur les plus riches.
Je sais bien que vous aimez le chômage et les impôts.
Vous avez compris, je l'espère.
L'inverse.
Vous avez compris, je l'espère, c'est le bilan du dernier quinquennat, que cette fameuse théorie du ruissellement n'existe pas et ne vérifie pas dans les faits.
On a créé un million d'emplois et le chômage est au plus bas
historique. Donc je note que vous ne voulez pas être constructif, vous ne voulez pas revenir sur une mesure dont les Français, à une écrasante majorité, jugent qu'elle a été profondément injuste et profondément inefficace.
Non, je pense que là où on peut se rejoindre, c'est sur des mesures comme le taux minimum d'impôt sur les sociétés, pour éviter l'optimisation, voire l'évasion dont vous parliez. Ensuite, le retour, puisque, comme vous le savez, l'ISF n'a pas été complètement supprimé, puisqu'il reste un IFI, un impôt sur la fortune immobilière. Et si on remettait l'ISF en termes de finances publiques, on ne changerait quasiment rien, parce que c'est de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros, alors que ce dont on parle, c'est-à-dire l'érosion du pouvoir d'achat par l'inflation, ça appelle des mesures beaucoup plus fortes. Et donc, le retour de l'ISF ne permettrait pas de financer des grandes mesures telles que celles qui sont proposées par certains groupes de la majorité ou de l'opposition.
Donc quand vous économisiez 5 euros sur les APL, c'était
important. Il n'y a pas eu d'économie de 5 euros sur les APL.
Quand on vous parle de quelques milliards, fût-il effectivement, il y a une dimension très symbolique, mais la politique est aussi affaire de symboles. Et dans un moment de crise dans lequel nous sommes, les Françaises et les Français ont besoin de voir que les décisions vont dans le sens de la justice, de la dignité et d'un certain nombre de principes d'égalité. C'est ça qu'on vous dit aussi avec le rétablissement de l'ISF. Montrez de la bonne volonté. Montrez au pays que vous avez entendu ce qui s'est passé il y a une semaine avec cette sanction historique infligé au président de la République et à sa majorité, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'un président nouvellement réélu ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale.
C'est la première fois qu'un président a été réélu hors cohabitation. Et les Français ont placé la majorité présidentielle en tête des législatives. Mais c'est une majorité relative, il faudra discuter. Sur l'ISF, je crois qu'il y a un élément qui a emporté les résistances lorsque nous avons décidé de sa suppression, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, les grandes fortunes échappaient très largement à l'ISF. Et donc, d'une certaine manière, c'était des gens aisés qui étaient redevables de l'ISF, mais pas les plus aisés, pas les grandes fortunes.
Eh bien, transformons-le pour qu'il soit encore plus juste, cet ISF. Moi, je suis prêt à y travailler avec vous, soyons constructifs. Moi, je suis prêt à ce qu'on mette sur la table avec l'ensemble du Parlement l'idée qu'on recrée, qu'on réinstalle l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'on le rend plus efficace, plus juste, et y compris qu'on augmente les recettes qui y seront afférentes. Moi, je suis totalement d'accord pour être constructif sur ce sujet.
Une question technique, Jean-Noël Barrot. Avec l'inflation, les recettes de TVA augmentent, les prix augmentent, les recettes de TVA augmentent. On a une idée ou pas de la proportion dans laquelle ça augmente, avec laquelle ça augmente ?
Non, mais je crois qu'en appliquant assez mécaniquement l'augmentation des prix, vous obtenez l'augmentation afférente de la TVA. Évidemment, oui. Quand les prix augmentent, tout augmente, les recettes et les dépenses.
Il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est la Étienne, à l'instant, nous en parlait juste avant le flash, c'est la réduction des dépenses publiques, des dépenses de l'État. Ça, les Français le demandent aussi. Alors, tout le monde est d'accord pour dire...
Les Français demandent aussi plus de services publics, parce qu'on sort d'une campagne législative où moi, j'ai entendu partout, le recul des services publics, les déserts médicaux, l'État catastrophique et dramatique de notre hôpital public, l'État aussi de notre école républicaine. Donc en réalité, les Françaises et les Français, ils veulent de l'investissement dans nos services publics. Ils veulent aussi, c'est ça la dépense publique, de l'investissement pour la transition énergétique. On a à faire face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, qui est le défi du réchauffement climatique. Il va falloir financer cette transition énergétique et écologique, qui va d'ailleurs... Et j'espère qu'on sera d'accord là-dessus.
Créer des milliers, d'impôts.
Sans dette et sans impôts, parce que les Français ne veulent pas d'impôts et ils ne veulent pas creuser la dette. Et
ils veulent bien un impôt sur les plus riches. Ils veulent bien un impôt plus juste, plus proportionnel, plus progressif.
Ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts. C'est ce à quoi on s'est tenu depuis 5 ans, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a été réélu. Et donc, pour financer effectivement cette présence plus forte des services publics, qui est une demande des Français en matière d'école, en matière de santé notamment, il faut créer plus de richesses, c'est-à-dire poursuivre la politique qui nous a amené à nous rapprocher progressivement du plein emploi, et puis globalement, travailler plus pour créer plus de richesses et financer notre modèle social.
Je crois que vous êtes enfermé dans un vieux modèle, cette obsession de la croissance à tout prix. Et je le redis, la métaphore du gâteau que vous allez sans doute faire, qui est de dire, avant de partager le gâteau, il faut le faire. Le gâteau, il est fait. La France est un des pays les plus riches du monde, qui n'a jamais été aussi riche de son histoire.
Avec un taux de chômage qui reste supérieur à celui de ses voisins.
Bien sûr. Et bien donc, partageons le travail. Vous parlez de recettes intéressantes. Moi, je vous invite à être constructif. Quelle est la dernière fois
Quelle est
la dernière fois qu'on a créé massivement l'emploi dans ce pays? C'est les 35 heures. Non. C'est l'INSEE qui le dit. C'est l'INSEE. C'est pas la NUP qui le dit. C'est l'INSEE. C'est les 35 heures qui ont créé des centaines de milliers d'emplois.
C'est une période également où les salaires ont arrêté d'augmenter. Les 35 heures. Vous êtes un jeune député.
Je connais mon histoire. Je connais mon histoire par cœur. Partageons le travail pour travailler mieux, moins et tous.
Les salaires.
Il y a aujourd'hui de la richesse à partager. Il y a un travail à partager pour travailler mieux, moins et tous et permettre à la société d'aller dans un sens vertueux. Eh bien, pourquoi pas? On peut le partager sur la semaine. Moi, je suis pour les 32 heures. On peut aussi réfléchir à la sixième semaine de congés payés. On peut aussi réfléchir au temps de la vie pour avoir du temps pour se former, pour apprendre. Vous savez, moi, je défends le revenu universel d'existence. Donc, l'idée qu'il faut un revenu citoyen qui garantisse la dignité de chacune et de chacun et qui permette à tout le monde de s'épanouir. Et je crois que c'est vertueux pour la société, y compris d'un point de vue économique.
Bon, et évidemment, on vous posera la question si ça devient sérieux comme projet du financement des 32 heures.
Ah, je veux bien passer 2 heures d'émission avec vous, si vous voulez, pour parler du financement de la réduction du temps de travail. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui a démontré que la mesure la plus créatrice d'emplois, je pourrais vous renvoyer vers le rapport de notre collègue Romagnan quand elle était parlementaire.
Pourquoi il y a encore du chômage après les 35 heures si ça crée autant d'emplois?
Parce qu'elles ont été complètement saccagées après par les différents gouvernements successifs, et y compris d'ailleurs par Manuel Valls. Mais moi je crois que partager le travail, vous savez, c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, c'est comme ça qu'on va vivre mieux.
Enfin là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'emplois qui sont, beaucoup de propositions de postes qui sont ouvertes et personne ne vient les chercher.
C'est totalement irréaliste de croire que la croissance est la solution.
Parce qu'il faudrait une croissance
à deux chiffres pendant des décennies pour créer du plein emploi total. Donc vraiment, soyons pragmatiques, regardons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Dans l'actualité, il y a également cet appel dans le journal du dimanche, c'était hier matin, mais c'est extrêmement important, je voulais absolument qu'on y revienne dans Europe Midi. Appel dans le JDD des trois grands énergéticiens, comme on dit, que sont EDF, Engie et Total Energy, qui nous demandent de baisser notre consommation d'énergie. Est-ce que ça vous inquiète déjà le prix de l'énergie? Comment vous le voyez à la rentrée? Est-ce qu'on se dirige vers les 3 euros le litre?
Il y a une dimension qui est liée à la conjoncture, à la guerre en Ukraine et aux tensions dans le monde sur les énergies, en particulier les énergies fossiles. Mais il y a une dimension qui est évidemment structurelle et qui nous amène à engager la planification écologique souhaitée par Emmanuel Macron pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles. L'appel des énergéticiens, il est bienvenu. Alors, il faut évidemment qu'eux-mêmes fassent un effort, et c'est ce que Bruno Le Maire leur a rappelé ce matin, pour éviter que la facture énergétique presse trop lourdement sur le portefeuille des ménages français. Mais il faut progressivement qu'on puisse aussi s'habituer dans notre quotidien à faire des petits gestes qui nous permettent d'économiser de l'énergie, non pas seulement pour l'hiver qui vient, mais plus généralement pour réussir cette transition écologique qui va passer par des efforts faits par chacun, qui seront accompagnés par la puissance publique, mais une conscience partagée et des efforts pour parvenir à nos objectifs.
Qu'est-ce que vous allez faire des efforts, vous aussi, ou pas? À titre personnel, tiens, comme ça.
Et bien sûr, et je sais que ce plan pour la sobriété qu'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a annoncé, va permettre, au travers de concertations, à chacun, collectivité, entreprise, famille, de prendre conscience de ces petits gestes qui permettent de faire des économies et d'avancer progressivement vers une plus grande sobriété.
Qu'est-ce que vous comptez faire comme effort, tiens, à titre personnel? Vous avez peut-être réfléchi ou pas encore?
J'ai pas encore réfléchi, mais je suis très volontaire pour qu'on me dise comment est-ce que dans mon quotidien et dans ma famille, chez moi, je peux contribuer à cette transition écologique.
Benjamin Lucas, vous y avez réfléchi?
Non, mais c'est gonflé de la part de Total, qui engrange des bénéfices records, d'expliquer aux Françaises et aux Français qui se privent déjà, hein, la sobriété, elle est déjà vécue et subie par des millions de Français. Je prends un exemple, et pour vous inciter là aussi à être constructif. Il y a chaque année des milliers, des centaines de milliers de familles qui ne peuvent pas partir en vacances. C'est une inégalité insupportable. Quand on a des enfants. On a envie de leur faire découvrir la mer, la montagne. Ça aide à se développer, ça aide à s'épanouir. Oui. C'est une inégalité insupportable. Elle devrait être. Il y a beaucoup d'associations, de collectifs, de collectivités, de fédérations d'éducation populaire qui œuvrent à aider des enfants à partir en vacances. Mais cette année, compte tenu du prix du litre d'essence, vous avez encore plus de familles que d'habitude qui ne pourront pas offrir à leurs enfants quelques heures, même pas quelques jours, quelques heures à la mer, à la montagne ou dans un musée. C'est une inégalité insupportable. Vous pouvez tout de suite, sans attendre une loi pouvoir d'achat, bloquer à la baisse le prix de l'essence, le prix des carburants. Ça a été fait notamment par Michel Rocard en son temps. Il suffit d'un décret. Faites-le. Permettons à des milliers de familles de pouvoir partir en vacances. Après tous les discours sur la sobriété, les petits efforts du quotidien, les Françaises et les Français le font déjà. Donc je trouve ça un peu insupportable qu'on leur dise « faites des efforts ». Les gens aujourd'hui se privent de beaucoup de choses pour pouvoir aller travailler et faire le plein de leur voiture.
On est en ligne avec Jean-Maurice qui nous appelle de Saint-Gratien, 61 ans, consultant senior en informatique. Bonjour Jean-Maurice.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Heureusement.
Vous dites que vous êtes prêt à faire plein de choses, mais les aides de l'État ne suivent pas. Expliquez-nous.
Oui, en fait, quand je dis il faut rétablir la vérité, c'est que, en fait, moi, je m'attendais à une aide bien supérieure avec l'histoire de ma prime Rénov, quand j'ai installé ma pompe à chaleur l'année dernière, donc c'était à la fin juillet. Et je trouve qu'on reloue des 5 000 euros promis, on n'a eu que 3 002. Donc, bon, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Je suis persuadé qu'il y a une redoutable machine commerciale qui est en congé. D'ailleurs, on est dérangé tous les jours par ce genre d'appel.
Oui.
Simplement, ça peut être très bien, très rentable. Ça, c'est vrai, du point de vue consommation d'énergie. Mais j'aimerais que l'État contribue un peu plus, quoi, parce qu'on nous donne comme prétexte que les revenus sont un peu assez hauts pour se financer soi-même, quoi, finalement. Alors c'est bien entendu, on le savait déjà. Et puis l'aide de l'État, en fait, ça apparaît progressivement comme du pipeau. Quoi,
voilà. Ouais, vous dites, je comptais sur une aide de 5 000 euros pour une pompe à chaleur, j'ai eu que 3 002. Bon.
Oui.
Bon, c'est déjà
pas mal, hein, vous me
dites. C'est ce que j'allais dire. 3 200. Bon, oui. Effectivement, après, l'État peut pas tout payer, hein, déjà. Enfin,
et
ça dépend de l'État. Ça dépend d'accord. des revenus des uns et des autres, bien sûr. Hein, c'est
oui,
toujours
ça,
comme
normal.
Ça.
C'est normal. C'est normal. Simplement, on est submergé par ce genre d'appels. Donc, alors, je vous dis que l'exemple à pompe à chaleur, c'est le plus ancien. Par contre, maintenant, c'est l'énergie renouvelable, donc l'énergie solaire, où il faudra s'équiper aussi à un coût assez élevé, je sais de quoi je parle, ou bien, par exemple, l'isolation extérieure. J'ai été frappé de ça. Bon.
Oui, on est démarché, oui, effectivement, faut faire attention à ne pas se faire avoir.
Donc, voilà. Donc,
et c'est un vrai coup. Merci beaucoup, Jean-Maurice. Merci de nous avoir appelés au 39-21, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Voilà, comme tous les jours, vous avez la parole. Vous appelez le 39-21, vous passez à l'antenne. 12h47, on se quitte quelques instants et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
On parle de la chasse au gaspillage. C'est l'une des informations les plus importantes de ces dernières heures, si ce n'est la plus importante. L'appel à tous les Français à freiner notre consommation d'énergie, car on risque la pénurie et les prix risquent d'être stratosphériques. Qu'en pensez-vous? Vous appelez le 39-21. On est avec vous et on est avec Benjamin Lucas, qui est député NUPES, tendance écologiste des Yvelines, et Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Les trois grands patrons qui signent cet appel disent que ça menace notre cohésion sociale. C'est pas rien, la cohésion sociale d'un pays. Vous, c'est votre avis aussi, Jean-Noël Barrot?
Oui, enfin, je pense que à nouveau, hein, les petits gestes du quotidien, c'est pas pour faire pour passer l'hiver, si je puis dire. Le gouvernement a rappelé et a pris toutes les mesures pour faire en sorte qu'aucune pénurie ne puisse intervenir l'hiver prochain. Je crois que c'est tout simplement la grande marche dans laquelle il faut qu'on s'engage collectivement pour essayer de réussir le grand défi de la transition écologique, de faire en sorte que la France atteigne la neutralité carbone à l'horizon 2050 et surtout qu'elle soit la première grande nation à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Tout ça, ça suppose une conscience partagée des enjeux, évidemment des efforts que les uns et les autres auront à concéder et un accompagnement pour que chacun puisse faire ses efforts sans que ça soit trop douloureux.
Je pense que la conscience des Français, elle est là sur la menace. D'ailleurs, nous la vivons. C'est plus une menace, c'est une réalité. Le péril climatique, nous le vivons entre les sécheresses, les pénuries, enfin, c'est notre vie quotidienne désormais, et on l'a vu de façon dramatique ces dernières semaines, est rythmée par le réchauffement climatique et son impact terrible sur la civilisation, sur les sociétés humaines et sur nos économies. En revanche, là où il faut une conscience plus forte, c'est du côté des gouvernants et du côté notamment du gouvernement français. Je rappelle, la France, c'est une partie du bilan.
Pour refaire le nucléaire, vous voulez dire ?
Non, je vais y venir. Une partie du bilan de M. Hollande, une partie du bilan de M. Macron, je ne veux pas faire de jaloux, condamné par la justice pour inaction climatique. À chaque fois que dans le précédent quinquennat, il a fallu faire un choix entre les lobbies et le climat, le président de la République et son gouvernement ont choisi la soumission aux lobbies. Et d'ailleurs, ce n'est pas rien que ce soit aujourd'hui Total qui se permette, le PDG de Total, qui se permette de dire ce qu'il faudrait faire ou pas en matière d'environnement. Donc je crois que là,
d'environnement, de coût de l'énergie.
De coût de l'énergie. Bon, ça a un impact quand même sur les questions environnementales. Donc je crois que là, maintenant, il faut un virage, une bifurcation écologique. Non, mais regardez le nucléaire. Nous sommes aujourd'hui totalement dépendants du nucléaire. On a combien de réacteurs à l'arrêt, monsieur ?
La moitié.
La moitié des réacteurs sont à l'arrêt. On est obligé de réouvrir une centrale à charbon. Vous voyez bien que c'est pas viable. Par ailleurs, si on veut retourner sur ce débat du nucléaire. Non, mais si on veut retourner sur ce débat du nucléaire, il y a une urgence. On est d'accord pour dire. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le GIEC a raison,
que nous sommes. Et que le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée.
Je termine. On a quelques mois, quelques années là pour engager une bifurcation massive et majeure pour la transition écologique. Le GIEC nous dit 3 ans. Le premier EPR que vous voulez construire avec M. Macron, il entrera en fonction quand ? En 2035. Donc là, il faut des réponses immédiates, rapides, urgentes en matière d'énergie renouvelable. C'est une énergie, par ailleurs, le nucléaire, c'est une énergie qui nous met en dépendance parce qu'on ne trouve pas de l'uranium en France. Donc c'est là aussi une énergie qui nous met en dépendance vis-à-vis de pays, vis-à-vis de zones du monde qui sont particulièrement instables et avec des régimes avec lesquels, des chefs d'État avec lesquels ni vous ni moi on aimerait partir
c'est
en vacances.
C'est l'énergie la plus décarbonée,
vous pouvez refuser de vous y engager. L'énergie la plus décarbonée, c'est le vent, c'est le solaire, c'est l'hydraulique.
C'est pas ce que disent les scientifiques,
donc,
mais...
Non, on ne doit pas lire les mêmes. Alors moi, je lis ce que dit le GIEC et je vois les scénarios qui sont proposés. Donc on a besoin là maintenant tout de suite d'investir dans la transition écologique, dans le renouvelable, dans les énergies renouvelables. Maintenant, sinon, on peut attendre 2035.
On sera dans beaucoup de régions, les pieds sous l'eau, de la puissance solaire, installation de 50 parcs éoliens offshore.
Loïc nous appelle de Lyon. Bonjour Loïc, vous êtes artisan.
Oui, bonjour à tous.
Vous avez 50 ans. Vous êtes artisan. Vous exercez quelle profession, tiens ?
Alors, je suis plaquiste électricien.
Plaquiste électricien, très bien. Ouais. Vous dites, j'en ai marre qu'on me demande de faire des économies d'énergie.
Oui, quelques faits et arguments et puis quelques solutions à mes propos. EDF, dans les années 80, entreprise nationale, offrait gracieusement des chaudières électriques aux promoteurs immobiliers pour installer tout électrique dans les immeubles. Ça, c'est un fait. Les raffineurs nous disent que le raffinage coûte extrêmement cher maintenant alors qu'ils ont des records de bénéfices. Depuis 30 ans, on nous demande de passer de la baignoire à la douche pour consommer moins d'eau,
oui.
De fermer nos robinets d'eau pour laver les dents,
oui.
De passer en double vitrage pour consommer moins, de passer en radiateur que l'eau porteur pour consommer moins.
Oui.
Pourquoi nos politiques, qui sont nos politiques de haut rang, qui sont nos salariés en CDD, ne l'oublions pas, pourquoi nos politiques n'ont des idées que pour se faire réélire et n'ont pas des idées pour que la France devienne de consommatrice à productrice ? Pourquoi, avec le prix d'un EPR, on ne donnerait pas l'argent à toutes parties pour financer des panneaux photovoltaïques de la maison individuelle aux immeubles pour faire du photovoltaïque autoconsommable ? Pourquoi ne pas financer tout au
plutôt que de financer un EPR, mettre les milliards de l'EPR sur pour financer les panneaux photovoltaïques.
Les dizaines de milliards de dépassement du coût de l'EPR.
Pourquoi ne pas financer des réserves d'eau pluviale qui alimenteraient nos circuits sanitaires dans une maison individuelle ou dans des immeubles ? Pourquoi, avec le prix d'un EPR, ne pas financer ? Je vous rappelle qu'il est interdit en France de brûler nos déchets verts.
C'est vrai.
Alors pourquoi, avec le prix d'un EPR, ne pas financer des centrales de méthanisation dans chaque commune qui permettraient de fournir de l'électricité à tous les bâtiments publics ?
Les questions sont posées, Loïc. Merci beaucoup de les avoir posées. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 3921. Une réponse extrêmement courte parce qu'il est 12h55 et je dois rendre l'antenne, comme on dit, dans quelques instants. Jean-Noël Barrot et Benjamin Lucas vous répondent.
Oui, le projet que nous portons avec la majorité présidentielle, c'est d'aller vers un mix équilibré, à la fois du nucléaire, parce que c'est la seule énergie non carbonée qui soit pilotable, mais aussi, comme vous le dites, avec un recours beaucoup plus important aux énergies renouvelables, la multiplication par 10 de la puissance solaire et l'installation de 50 parcs éoliens offshore. C'est le nucléaire d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre.
Sur deux pieds. Benjamin Lucas.
Non, mais le nucléaire, énergie dangereuse, énergie qui nous met en dépendance de pays instables. Et une énergie trop coûteuse pour les Françaises et les Français. On voit Flamanville et les dépassements financiers colossaux. Dans un moment où il faut restreindre la dépense publique, comme le dit Bruno Le Maire, faisons aussi attention à nos choix énergétiques.
Merci beaucoup à tous les deux. Benjamin Lucas, député NUPES, tendance écologiste des Yvelines, et Jean-Noël Barrot, député MoDem des Yvelines. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le studio d'Europe 1. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.